Je voudrais d'abord remercier Hugues de m'avoir invité. Quand il m'a dit qu'il allait m'inviter à New York, j'ai dit oui, d'accord. Et puis trois semaines ou deux mois plus tard, la lettre est arrivée. Donc je suis très très content de revenir au Collège de France après 12 ans. Rien de ce dont je parlerai aujourd'hui n'a à voir avec ce que j'ai présenté il y a maintenant 12 ans. Et pour mettre le travail que je vais présenter sur ces quatre conférences en perspective, j'ai pensé commencer par une citation qui n'a pas été écrite au XIXe siècle et qui n'a pas été écrite par un physiologiste, mais par un bactériologiste génial qui a intuitivement compris qu'on ne savait probablement rien en physiologie. Il a écrit cette phrase dans un livre absolument illisible, mais c'est la phrase la plus claire du livre. C'est dans le hasard et la nécessité. Le mot physiologie n'est pas dans le livre, mais cette phrase reprend exactement ce qu'est la physiologie, à savoir c'est un jeu d'organes qui se parlent entre eux et non pas de molécules qui vont d'un noyau à un autre. Et probablement, on ne sait pas grand-chose en physiologie, en tout cas, croire Claude Bernard et ses élèves et d'autres aux États-Unis ont décrit toutes les fonctions de tous les organes est peut-être un peu présomptueux. Et c'est dans ce cadre que je vais présenter j'appellerai pas ça une découverte, car c'est en partie par chance, mais ce que nous avons fait dans les 10 dernières années. Donc, mon laboratoire travaille sur la biologie du squelette depuis 20 ans. Et quand on travaille sur la biologie d'un organe, en fait, quel que soit l'organe, même si c'est le cerveau, on ne pose que deux questions. Et c'est toujours les mêmes questions, que ce soit le cerveau ou le muscle. La première, c'est comment les cellules différencient dans cet organe. Et ça peut être des facteurs de transcription, ça peut être maintenant des cellules souches. Quel que soit le nom, c'est de la biologie du développement et c'est de la même question. La deuxième question, et qui est toujours la même, c'est comment cet organe remplit ses fonctions qui sont connues, qui ont été décrites au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XXe siècle. Et l'imprégnation moléculaire de notre éducation veut qu'on regarde immédiatement au niveau moléculaire comment la mémoire, l'exercice, n'importe quelle fonction sont maintenues et se passent durant la vie. Et puis, à un moment, quand on fait ce genre d'expérience, il y a quelque chose qui se passe, il y a un résultat qui arrive et qui n'est pas attendu. Et la façon la plus simple de le traiter, c'est de l'ignorer, mais ce que ce résultat veut dire, c'est qu'on ne connaît pas toutes les fonctions de l'organe que l'on étudie. Et personnellement, je pense que s'il y a une seule souris qui devrait être conservée de toute la révolution de la génétique de la souris, c'est les souris obi-obi, car personne ne pensait que le tissu adipeux était un organe endocrine. On savait plus ou moins que si on s'amuser avec les gènes HOX, des choses assez mal apparaîtraient. Mais penser que le tissu adipeux puisse être un organe endocrine était un nouveau paradigme. Et donc, pour nous qui travaillons sur le squelette, cette question s'écrit de cette façon. Est-ce que l'os a d'autres fonctions que faire de l'os ? Et vous pouvez poser cette fonction pour n'importe quel organe. Vous pouvez demander, est-ce que le tissu adipeux a d'autres fonctions que faire du tissu adipeux ? Est-ce que le rein a d'autres fonctions que l'élimination ? Et personne ne va poser de question. Mais quand vous posez cette question pour l'os, la première question qui vient, et c'est la plus fertile, c'est pourquoi l'os ? Et cette pourquoi l'os est en fait la réflexion d'un blocage culturel qui est universel. Car quand on veut représenter la mort sans employer le mot de mort, c'est ce qu'on présente. Et quand on veut représenter le danger de mort sans employer le mot de danger de mort, c'est ce qu'on représente. Et quand on veut présenter une maladie qui est celle de la fin de la vie, c'est ce qu'on représente. Donc, Pour pouvoir poser la question, est-ce que l'os est un gland endocrine, c'est un obstacle culturel qu'il faut surmonter. Je ne parle pas pour moi, mais je parle parce que ce que j'ai vu dans des revues de nos articles. Et en fait, c'est simplement que pour tout le monde, l'os est un tissu inerte qui est associé à la mort quand il n'est pas associé simplement à soutenir le corps. Et pourtant, le tissu osseux a une particularité de biologie cellulaire qui est absolument unique. Aucun autre tissu n'a cette particularité. Et en fait, c'est comme si l'os avait inventé l'auto-immunité. L'os contient une cellule dont la seule fonction est de détruire le tissu hôte. Okay, c'est proprement la définition de l'auto-immunité. À part que c'est une fonction physiologique, et en fait c'est la moitié d'une fonction physiologique, ça appartient à une fonction binaire qui s'appelle le modelage osseux durant l'enfance et le remodelage osseux après la fin de la puberté, qui est une période qui, en termes d'évolution, n'a pas grand intérêt, parce que très peu de gens dépassaient la fin de la puberté sur les millions d'années où il y a eu des hommes sur cette terre ou d'autres animaux. Cette fonction est basée sur une alternance perpétuelle entre la résorption osseuse et la formation osseuse. S'il n'y a pas de modelage osseux, il n'y a pas de croissance longitudinale du squelette. Et s'il n'y a pas de croissance longitudinale du squelette pour un animal qui vit sur Terre, cet animal ne peut pas marcher. Et un animal qui ne peut pas marcher, je suis sûr qu'à Paris, c'est beaucoup plus clément qu'à New York, mais un animal qui ne peut pas marcher n'importe où dans le monde ne peut pas vivre. Donc, le modelage osseux, par définition, est une fonction de survie. Le dérivé du modelage osseux, le remodelage osseux, est en fait le premier chirurgien orthopédique qui ait jamais existé et le seul chirurgien orthopédique qui ait existé jusqu'au début du XXe siècle. Il est là pour réparer les micro ou macro dommages qui sont des fractures. Et vous pouvez imaginer le coût en vie humaine si, durant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas le remodelage osseux pour remplacer des chirurgiens qui n'étaient pas en nombre suffisant. Quelle que soit cette énergie qui est difficile à quantifier, se suicider prend beaucoup d'énergie, surtout quand vous le faites tous les jours, dans des dizaines d'endroits différents, et qu'ensuite vous décidez de renaître et de refaire de l'os. Cette quantité d'énergie qui est nécessaire au modelage osseux et remodelage osseux est difficile à mesurer, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est proportionnelle à la taille de l'organe. Et l'os couvre plus de surface que la rétine ou que la rate. Donc, très probablement, le modelage et le remodelage osseux sont très, très chers en termes énergétiques. Cette idée est une simple idée qui pourrait venir à la fin d'un dîner arrosé. Elle devient réelle quand on la compare à un livre de médecine ou à des expériences en médecine. Un enfant qui est anorectique ne vient pas vous voir en disant « Docteur, après un repas, je cours aux toilettes et je vomis ». Ça n'arrive pas. Ce qui arrive, c'est que la mère vient vous voir en disant « Docteur, mon fils ou ma fille ne grandit plus ». En l'absence de prise énergétique, il n'y a pas de modelage osseux. Et l'anorexie nerveuse est une cause d'ostéoporose chez l'adulte. Et je pense que tout le monde le sait dans cette salle et même dans la rue des écoles, l'arrêt des fonctions gonadiques cause une perte osseuse. Et donc cette vision de la physiologie osseuse nous a amené à proposer il y a maintenant 18 ans qu'il devait y avoir une régulation coordonnée de nature endocrine, car les organes ne se touchent pas, de la croissance osseuse, du métabolisme énergétique, qui est une tarte à la crème, ça peut être n'importe quoi, le métabolisme énergétique n'a plus de définition, et de la reproduction. Ça semble être une proposition assez vague, mais en fait, elle est extrêmement restrictive. Elle est restrictive parce qu'en physiologie, comme en biologie du développement, les gènes apparaissent quand on en a besoin. Et la première façon dont on a prouvé que cette hypothèse avait somme vérité est en montrant qu'il y a une hormone qui est faite par les adipocytes qui monte dans le cerveau, qui inhibe, et Franck Oury qui est dans la salle a fait ce travail, qui inhibe la synthèse de sérotonine et qui conjointement inhibe l'appétit et la croissance osseuse. C'est important parce qu'il n'y a pas de leptine chez des animaux qui n'ont pas d'os, pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'adipocytes chez les animaux qui n'ont pas d'os. Il y a du tissu adipeux, mais il n'y a pas d'adipocytes. Donc ça, c'était la première vérification qu'en fait il y a une régulation coordonnée de la masse osseuse, du métabolisme énergétique et de la reproduction, puisque leptine régule aussi les fonctions gonadiques. Mais évidemment, la partie la plus effrayante de cette hypothèse, celle qu'on a évitée pendant 10 ans, est que si c'est vrai, l'os ne peut pas être simplement une éponge qui reçoit des influences endocrines, il en reçoit plus et plus et plus. Si c'est vrai, l'os doit être un endocrine qui doit réguler un aspect du métabolisme énergétique et la reproduction. Et c'est là où les choses sont devenues plus difficiles. Je vais résumer ce qui nous a amené à travailler sur une molécule en particulier, en supposant que c'était une hormone, c'est l'ostéocalcine. Donc, l'ostéocalcine est un gène ostéoblaste spécifique et c'est une molécule sécrétée. Et je n'ai pas retenu énormément de choses de mon internat, mais la chose que j'ai retenue, c'est que les hormones peptidiques sont les gènes les plus cell spécifiques qui existent avec les gènes de la globine et les gènes des immunoglobulines. C'est la protéine de la matrice osseuse la plus abondante et elle n'est présente que chez des animaux qui ont des os. En d'autres termes, l'évolution a inventé un gène avec l'apparition des os. Mais quand ce gène est délété chez la souris, les souris n'ont pas de phénotype. Alors, il y a deux façons de regarder ce résultat. La première, c'est de dire pudiquement... C'est pas de chance, il faut regarder à autre chose. La deuxième, c'est de relire ce qui est écrit. L'évolution a inventé un gène avec l'invention de l'os. Elle ne peut pas avoir inventé un gène qui, en plus, code pour la protéine la plus abondante de la matrice osseuse pour rien. Il pourrait y avoir un gène qui reste durant l'évolution, mais il n'y a pas un gène qui est inventé pour rien. Et donc, si l'ostéocalcine n'a pas de fonction dans l'os, très probablement elle a une fonction ailleurs. Elle a toutes les caractéristiques d'une hormone. C'est un gène cell spécifique. C'est une molécule sécrétée. Elle est formée comme une pré-pro-molécule. Et pour étudier l'ostéocalcine, on a eu beaucoup de chance parce qu'on avait immédiatement deux modèles animaux. L'un qui est le knockout classique des souris qui n'ont pas d'ostéocalcine, et l'autre qui est un gain de fonction, c'est des souris à qui il manque ce gène, ESP, dont je vais parler plus tard, et cette mutation résulte en un gain de fonction d'ostéocalcine. Donc, pour chaque expériment, on avait un contrôle interne pour vérifier s'il y avait un phénotype en miroir dans l'autre souris. Et sans présenter les résultats dans l'ordre, si on prend des îlots de souris en culture et qu'on les traite avec le contrôle positif, acétylcholine, ils relarguent de l'insuline. Ça, c'est attendu. Si on les traite avec ostéocalcine, ils le font aussi, mais ils le font mieux. L'implication de ces résultats de biologie cellulaire, c'est que maintenant, chez l'animal, et c'est un point important, toutes ces expériences sont faites chez des animaux qui sont sur un régime normal, car la notion de je m'excuse, de high-fat diet a été inventé en 1952 avec McDonald's. Et l'évolution ne peut pas avoir inventé des gènes pour prévenir des complications du high-fat diet. Donc si un gène du métabolisme énergétique a une fonction, comme l'insuline, comme la leptine, comme l'ostéocalcine, il doit avoir cette fonction dans un régime normal. Et dans un régime, les souris ayant un régime normal, quand on injecte du glucose, la sécrétion d'insuline, il y a deux pics, un ici et un là, est inhibée en l'absence d'ostéocalcine. Le résultat, c'est que quand on fait à ces souris un test de tolérance au glucose, comme certains d'entre nous ont pu avoir, elles sont intolérantes au glucose et en français, elles sont diabétiques sur un régime normal. Elles sont aussi résistantes à l'insuline, et c'est une notion dont l'existence me paraît douteuse, mais je reviendrai sur cette notion. Si on injecte de l'insuline à ces souris, le taux de glucose ne diminue pas. Alors que si on injecte de l'insuline à des souris sauvages, les souris deviennent hypoglycémiques. Je dis que c'est une notion douteuse, car l'insuline, le récepteur de l'insuline est une tyrosine kinase, et je ne connais pas d'autres exemples de résistance aux tyrosines kinases que pour l'insuline. Et à mon avis, cette notion de résistance à l'insuline recouvre la fonction d'autres hormones qui n'ont pas été clonées encore, ou identifiées. En l'absence d'ostéocalcine, les îlots sont plus petits, il y a moins de cellules bêta et elles prolifèrent moins. Ça, c'est le knockout, absence d'ostéocalcine. S'il y a trop d'ostéocalcine, maintenant les souris produisent plus d'insuline après glucose et elles ont une tolérance au glucose qui est meilleure que les souris sauvages. Elles ont une résistance, une sensibilité à l'insuline qui est aussi meilleure que les souris sauvages. Ce gène est exprimé dans l'os, dans les ostéoblastes et dans le testicule. Et que la mutation soit celle spécifique ou pas, le phénotype est le même. Ce qui veut dire que c'est la fonction dans l'os qui résulte en une régulation de la sensibilité à l'insuline. Et les souris ont plus d'îlots, plus de cellules bêta, et les cellules bêta prolifèrent plus. En d'autres termes, ce que l'on a, c'est une hormone, donc je vous ai passé sur certains détails biochimiques, mais quand elle est non carboxylée, elle favorise la prolifération des cellules bêta, la sécrétion de l'insuline, possiblement la réponse à l'insuline, et elle agit aussi sur le tissu adipeux. Le résultat, c'est que les souris, les rats, les hommes ont une augmentation à la tolérance du glucose et une augmentation de la dépense énergétique. En revanche, quand ESP est présent, maintenant l'ostéocalcine est carboxylée, toutes ces fonctions sont inhibées, les souris sont glucose intolérantes, elles ont une diminution de la dépense énergétique. Il y a énormément de questions qu'on peut se poser devant ces résultats, certaines que j'imagine pas et certaines que j'imagine mais que j'ignore, et d'autres sur lesquelles on a travaillé parce qu'on peut trouver une réponse. Qu'est-ce qu'est exactement ESP et comment il régule l'activité d'ostéocalcine? Comment le relargage d'ostéocalcine active est régulé dans le sang est régulé? Et en endocrinologie, le nom du jeu est feedback. Si ostéocalcine régule l'insuline, est-ce que l'insuline régule une fonction osseuse ou l'ostéocalcine elle-même? C'est une question extrêmement importante, car les organes cibles de l'insuline sont le muscle, le tissu adipeux et le foie. Si vous fait la délétion du récepteur de l'insuline dans le muscle et le tissu adipeux, les souris s'en fichent. Elles ont une homéostasie glucose essentiellement normale. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres tissus où l'insuline agit et qui sont importants pour le métabolisme du glucidique. Et puis, il y a d'autres questions sur lesquelles je viendrai durant les autres conférences. Donc, ostéocalcine est une molécule qui est carboxylée sur trois résidus glutamate dans l'ostéoblaste. Mais c'est simplement la forme qui est non carboxylée qui est active comme hormone. La forme carboxylée n'a aucune fonction. Le problème est qu'il n'y a pas de décarboxylase connue intracellulaire ou extracellulaire pour cette maladie. Et que donc, on ne pouvait pas comprendre comment ostéocalcine devenait décarboxylée pour devenir active. Ça, c'est pour ostéocalcine. ISP est une tyrosine phosphatase intracellulaire dont l'expression est plus régulée que celle d'ostéocalcine et dont les substrats sont inconnus. Et un autre postdoc extrêmement brillant dans le laboratoire, qui est canadien, Mathieu Ferron, a émis l'hypothèse en fait que le substrat d'ISP était le récepteur de l'insuline. Et non seulement il a émis l'hypothèse, mais il l'a prouvé. C'est probablement un des rares gels que je présenterai durant ces quatre conférences. Donc, en faisant une expérience qui s'appelle un substrate trapping, en mutant les résidus qui permettent à la phosphatase de reconnaître son substrat, sans déphosphoryler, mais en liant toujours la protéine, il a pu montrer que ISP, qui a plusieurs noms, se lie au récepteur de l'insuline aussi bien que le contrôle positif qui est cette tyrosine phosphatase PTP1B. Ça, c'est vrai dans des cellules en culture et c'est vrai in vivo. Il semble même que ISP ait plus d'affinité pour le récepteur d'insuline que PTP1B. Si le récepteur de l'insuline est le substrat d'ISP sur les ostéoblastes, ISP est un gène ostéoblaste spécifique, son inactivation, l'inactivation du récepteur de l'insuline dans les ostéoblastes, devrait résulter en un diabète. Ce qui n'est pas le cas quand il est délété dans le muscle ou dans le tissu adipeux, sur un régime normal. Et donc, si on regarde maintenant des souris à qui il manque le récepteur de l'insuline dans les ostéoblastes, elles sont hyperglycémiques, elles sont hypoinsulinémiques, elles ont une grande diminution de la sécrétion d'insuline provoquées par une injection de glucose, et elles sont diabétiques. Si on regarde la masse des cellules bêta et des îlots de Langerhans dans ces cellules, il y a une diminution de 50% des îlots, une diminution de 25 à 30% des cellules bêta, de la masse des cellules bêta, et une diminution de la prolifération des cellules bêta de plus de 50%. Encore une fois, il n'y a que deux tissus dans lesquels le knockout du récepteur de l'insuline résulte en un diabète sur un régime normal, c'est le foie et l'os. Ces souris sont aussi insulino-résistantes. Si on injecte de l'insuline, le glucose descend moins bas que dans les souris contrôles. Une deuxième implication de l'hypothèse que le récepteur de l'insuline pourrait être le substrat d'ISP, c'est que la signalisation de l'insuline dans les ostéoblastes, d'une manière ou d'une autre, régule ou bien l'expression ou bien l'activité d'ostéocalcine, puisque comme je vous l'ai dit au début, les souris ISP knockout se comportent comme un gain de fonction d'ostéocalcine. Et de fait, si on mesure la quantité d'ostéocalcine active dans le sang des souris qui n'ont pas de récepteur d'insuline dans les ostéoblastes, elle est diminuée de 20%. Et si on fait maintenant une expérience que l'on aime beaucoup dans le laboratoire, qui est de génétique, d'épistasie génétique, les souris qui sont sauvages, les contrôles, ont une quantité normale d'ostéocalcine dans le sang. Les souris à qui il manque un allèle du récepteur d'insuline dans l'os également, et c'est également vrai pour les souris à qui il manque un allèle d'ostéocalcine. Mais les souris à qui il manque un allèle à la fois d'ostéocalcine et du récepteur de l'insuline ont une profonde diminution de la quantité d'ostéocalcine active dans le sang, ce qui est la démonstration génétique que la signalisation d'insuline dans l'ostéoblaste est upstream de la sécrétion d'ostéocalcine active. Il faut que je fasse une parenthèse et que je parle un peu d'os. C'est la seule diapo de biologie osseuse de ces quatre conférences. L'os est un tissu où il y a deux cellules, l'ostéoblaste qui fait de l'os et l'ostéoclaste qui détruit l'os. L'ostéoblaste fait aussi autre chose, il contrôle la différenciation des ostéoclastes par deux gènes, l'un qui est positif, RINK ligand, qui favorise la différenciation des ostéoclastes, et l'autre qui est un régulateur négatif, ostéoprotégérine, qui inhibe la différenciation des ostéoclastes. Ostéoprotégérine est régulée par l'insuline dans les ostéoblastes, et si on traite des ostéoblastes avec de l'insuline, il y a une augmentation de l'expression d'ostéoprotégérine, ce qui n'est pas le cas, il y a plutôt une diminution de l'expression d'insuline. En d'autres termes, l'insuline favorise la différenciation des ostéoclastes en favorisant l'expression d'un inhibiteur. Attendez, la différenciation des ostéoclastes en favorisant l'expression d'un inhibiteur. Désolé pour cette confusion. Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand l'insuline se lie à son récepteur sur les ostéoblastes, il y a une diminution de l'expression d'ostéoprotégérine, il y a une augmentation de la différenciation des ostéoclastes. Il manque une diapo, je crois. Voilà. Ostéocalcine qui est sécrétée dans la matrice osseuse sous forme carboxylée rentre dans la lacune de résorption et le pH acide de la lacune de résorption décarboxyle la protéine. C'est le seul mécanisme connu pour enlever un groupe carboxyle sur une protéine en dehors de la cellule. Et ostéocalcine devient active et passe dans le sang. Et donc, ce que l'insuline fait, c'est de séquestrer pour son avantage le crosstalk qui existe entre ostéoblastes et ostéoclastes pour permettre la décarboxylation d'ostéocalcine et son activation. Donc, ce que ce travail avait montré, c'est que l'ostéocalcine favorise la sécrétion d'insuline dans les cellules bêta à travers un récepteur dont je vais parler. Et que, inversement, l'insuline agit sur l'ostéoblaste pour favoriser le relargage d'ostéocalcine. L'hypothèse initiale était qu'il y avait une régulation coordonnée de la masse osseuse ou la croissance osseuse, du métabolisme énergétique et de la reproduction. Et en toute logique, il semblait normal d'attendre que si ostéocalcine régulait la reproduction, ce soit chez la femme. ou chez la femelle, pour la souris, puisque l'ostéoporose est une maladie de la femme. Franck Coury a essayé très longtemps de faire ses expériences, et c'est toujours difficile de commenter des expériences qui ne marchent pas, mais ostéocalcine n'a absolument, ou les ostéoblastes n'ont aucun effet sur la production d'œstrogènes ou d'hormones, sextéroïdes hormones, par les ovaires. Le contrôle négatif dans ces expériences était de faire la même expérience avec des testicules de souris. Et quand Franck a fait cette expérience, ce qu'il a vu, c'est que quand on co-culture des ostéoblastes et des explants de testicules, il y a une augmentation de la production de testostérone de 4 fois. C'est spécifique car aucune autre cellule d'origine mésenchymateuse peut avoir cet effet et il n'y a pas d'effet des ostéoblastes sur la production d'œstrogènes, les œstrogènes étant des dérivés de la testostérone dans le testicule et ailleurs. Très rapidement, on a pu montrer que c'était une fonction d'ostéocalcine, car si on refait l'expérience maintenant avec des ostéoblastes sauvages et des cellules de Leydig, maintenant la production de testostérone augmente. Si on remplace les ostéoblastes sauvages par des ostéoblastes qui n'ont pas d'ostéocalcine, et il n'y a plus d'augmentation de la testostérone. Et l'effet de l'ostéocalcine sur la production de testostérone par les cellules de Leydig est une courbe en cloche qui suggérait dès le début que cette hormone polypeptidique avait pour récepteur un membre de la famille des GPCR. Ostéocalcine favorise, en l'absence d'ostéocalcine, il y a une diminution de l'expression de tous les gènes nécessaires pour faire de la testostérone. Dans les souris qui ont un gain de fonction d'ostéocalcine, il y a une augmentation de l'expression de ces gènes. Les gènes qui sont nécessaires à la conversion de la testostérone en œstrogène ne sont pas régulés par ostéocalcine, ce qui explique pourquoi ostéocalcine n'a aucun effet sur la production d'œstrogène et que les expériences de Franck Coury sont probablement correctes. Il n'y a aucun effet sur l'expression de l'enzyme. Donc, il n'y a pas de... Le résultat, c'est que des souris qui n'ont pas d'ostéocalcine ont tous les signes d'une diminution de l'imprégnation testostérogénique avec des testicules plus petits. Les souris ISP ont le phénotype inverse. Et quand on fait un spermogramme de chez souris, ce qu'on voit, c'est qu'en l'absence d'ostéocalcine, l'augmentation du nombre de spermatozoïdes qui existe chez la souris n'apparaît jamais. Et que chez les souris qui ont plus d'ostéocalcine, il y a une augmentation accrue du nombre de spermatozoïdes dans le spermogramme. Je voudrais attirer votre attention... La fonction cellulaire d'ostéocalcine dans les testicules est de diminuer l'apoptose. En l'absence d'ostéocalcine, il y a une augmentation de l'apoptose. En l'absence d'ISP, quand il y a trop d'ostéocalcine, il y a une diminution de l'apoptose qui se passe au stade 6 à 8 de la spermatogénèse. Il y a un aspect très important de ce phénotype que je dois dire on a complètement méconnu ou négligé à l'époque, mais qui est en train de revenir dans le laboratoire, c'est que en l'absence d'ostéocalcine, il y a une diminution de 75% de la quantité de testostérone dans le sang. Et ceci, bien que les souris ont une augmentation de LH, qui est l'hormone pituitaire qui favorise la sécrétion de testostérone. Ce qui veut dire que la glande pituitaire n'est pas suffisante chez une souris qui n'est pas une souris normale pour assumer la production de testostérone et qu'il faut les deux glandes, la glande pituitaire et l'os. Et c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de revenir. Il n'y a pas de phénotype ou il n'y a pas de fonction d'ostéocalcine chez, dans la gonade femelle. Et donc, on a tiré avantage de cette observation pour rechercher le récepteur d'ostéocalcine en recherchant une GPCR qui serait orpholine et qui serait exprimée dans le testis et dans les cellules de Leydig. Et cet récepteur s'appelle GPRC6A. Il est exprimé dans les cellules de Leydig de la souris et de l'homme. Il est absent dans les ovaires de la souris et de l'homme et de la femme, pardon. La délétion de GPRC6A dans les cellules de Leydig récapitule complètement le phénotype des souris qui n'ont pas d'ostéocalcine. Elles ont moins de testostérone, elles ont des testicules plus petits, et c'est une fonction d'ostéocalcine, car encore une fois, les doubles hétérozygotes ont le même phénotype que les homozygotes. Ce qui veut dire que ostéocalcine est le ligand de GPRC6A et qu'en fait il n'y a pas d'autre ligand de GPRC6A, sinon les doubles hétérozygotes n'auraient pas ce phénotype. Le phénotype des souris qui n'ont pas d'ostéocalcine ou qui n'ont pas de récepteur à l'ostéocalcine est beaucoup plus simple pour ce qui est des fonctions gonadiques que pour le métabolisme glucidique. Et donc, avec Franck Coury, nous avons décidé de rechercher des malades qui auraient ce phénotype. Et ce phénotype est assez similaire à des malades que j'avais vus quand j'étais interne, d'insuffisance testiculaire périphérique. Ce sont des malades qui ont une oligospermie, qui sont infertiles mais qui ne sont pas impuissants, qui ont une testostérone basse, une LH élevée, un karyotype normal, pas d'autre cause d'infertilité. Et ce que Franck a fait, c'est de séquencer chez 59 de ces malades tous les exons pour ostéocalcine et tous les exons pour GPRC6A. Comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas de mutation d'ostéocalcine chez ces malades. Et je dis comme on pouvait s'y attendre, car en général, les mutations en endocrinologie sont plus, quand elles existent, sont plus souvent dans le récepteur que dans le ligand. Mais deux malades d'Afrique de l'Ouest qui n'avaient aucune parenté entre eux avaient la même mutation dans GPRC. C6A, qui est dans une région qui est très conservée dans le motif qui traverse la membrane cellulaire. Et tous les protocoles tous les jouets informatiques qu'on peut utiliser pour déterminer si c'est une mutation innocente ou délétère, montrer que c'était une mutation délétère. Ces deux patients vivent en France. Ils ont un phénotype d'insuffisance testiculaire périphérique typique. L'un d'entre eux a adopté le style de vie français avec beaucoup d'allégresse, donc il boit beaucoup, mange beaucoup, et c'est difficile de savoir ce qui se passe du point de vue du métabolisme glucidique. L'autre patient, il lui a été dit quand il avait 18 ans qu'il avait du sucre dans ses urines. Et depuis, il est à un régime à 1200 calories par jour et il court 6 km par jour. Mais quand on lui a fait un test de tolérance au glucose, il avait tous les signes de diabète et c'est également vrai pour l'insuline, malgré tous les efforts qu'il fait. Ça, c'est le travail de Franck Coury, qui a été montré ensuite plus récemment, c'est qu'il y a un polymorphisme dans GPRC6A qui est associé avec la résistance à l'insuline chez des sujets qui ont un poids normal ou qui sont obèses. Pour finir, et c'est simplement pour mettre en avant, non pas de façon chauviniste, l'importance de l'os, mais presque comme une introduction pour les trois autres conférences, je vous ai montré un peu plus tôt que la signalisation d'insuline dans l'ostéoblaste en fait détermine la quantité d'ostéocalcine qui est relarguée dans le sérum. Si c'est vrai, de façon générale et pas uniquement pour le métabolisme du glucose, les souris qui n'ont pas de récepteur d'insuline dans l'ostéoblaste auront moins d'ostéocalcine et devraient avoir une diminution de testostérone. Et effectivement, quand on regarde le taux sanguin de testostérone dans les souris qui n'ont pas de signalisation d'insuline dans les ostéoblastes, elles sont hypotestostéronémiques, elles ont un spermogramme qui est très altéré, et c'est une colonie qui est particulièrement difficile de maintenir à l'état homozygote dans le laboratoire. Et donc, pour clore cette première conférence, que nous avons été amenés à montrer un peu par accident, c'est que l'os favorise le métabolisme du glucose et la fertilité masculine à travers une hormone, ostéocalcine, qui agit sur la cellule bêta à travers ce récepteur, dont la délétion cell spécifique dans les cellules bêta est faite, et ces souris sont diabétiques, et à travers le même récepteur qui est muté chez des patients infertiles dans les cellules de Leydig pour contrôler la synthèse de testostérone sans toucher celle d'oestrogène. Donc il y a bien une régulation réciproque et coordonnée, réciproque parce que la leptine qui vient de l'adipocyte contrôle la masse osseuse, de la croissance osseuse, de la masse osseuse, de l'homéostasie glucidique et de la fertilité. Ostéocalcine signale à travers une GPCR dans ces deux cellules qui s'appelle GPRC6M mais qui n'est pas le seul récepteur d'ostéocalcine. La régulation de testostérone par ostéocalcine challenge un principe fondamental d'endocrinologie qui veut que les hormones pituitaires contrôlent la sécrétion des hormones stéroïdes. Et il y a aussi deux thèmes qui apparaissent, et je dis ça de façon très naïve parce que nous ne les avons pas vus jusqu'il y a 6 mois, mais rétrospectivement, ils étaient là. Ces deux projets qui ont été les projets initiaux pour ostéocalcine. Le premier, c'est qu'ostéocalcine est nécessaire pour réguler les fonctions qu'elle régule, ce qui est normal pour une hormone, mais elle est aussi suffisante pour augmenter leur fonction. C'est les souris ISP. L'importance de ça, c'est qu'en fait, ces souris ISP montrent qu'ostéocalcine a un avenir thérapeutique, puisque quand on a trop d'ostéocalcine, on a un meilleur métabolisme glucidique, des meilleures fonctions de reproduction, mais c'est plus important pour les fonctions que je présenterai la semaine prochaine et début décembre. La deuxième particularité qui apparaît dès le début dans ostéocalcine, c'est que c'est un peu comme le parrain. C'est une hormone aux mains propres. Elle ne fait rien. Tout ce qu'elle fait, c'est d'être en amont d'autres hormones. Et vous allez voir à travers les quatre conférences, ostéocalcine ne fait pas grand-chose. Elle est juste en amont de l'insuline, de la testostérone, de BDNF et d'autres molécules comme cela. Et je vous laisse avec cette image de la physiologie.